France Musique. Musique et moi.
Olivier Weber.
Priscille Lafitte. France Musique.
Je voyage pour vérifier mes rêves.
Bonjour, Olivier Weber.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi, au son de ce 20e nocturne de Frédéric Chopin, celui en ut dièse mineur, joué sur un piano historique, un pléyel datant de 1836 appartenant au pianiste Alain Planès. En clin d'œil, donc, à la citation de Gérard de Nerval, « Je voyage pour vérifier mes rêves ». Il semble qu'Alain Planès ici vérifie ses propres rêves et ceux de Chopin en voyageant sur le clavier de ce pléyel contemporain, donc, de Gérard de Nerval. Et vous, Olivier Weber, est-ce qu'en écoutant ce nocturne de Chopin, vous cherchez une rêverie à la rendre palpable, sensible?
Oui, bah moi c'est un petit peu l'un des moteurs de ma vie, le rêve, la rêverie, et puis la mélancolie. Je suis porteur de mélancolie depuis l'enfance, c'est comme ça, c'est pas du tout une tristesse, et je retrouve ça dans la littérature avec beaucoup de plaisir, dont Nerval, et qui, avec ses citations, « Je voyage pour vérifier mes rêves », c'est un romantique presque absolu. Et puis deuxièmement, bien sûr, dans la musique classique, voilà, tous ces grands romantiques, Beethoven, Chopin, et Chopin, c'est prodigieux, c'est un génie. Dommage qu'il n'ait pas vécu 20 ans de plus. Et on n'est pas dans la tristesse, encore une fois, on est dans la mélancolie du paysage, de l'humain. On est dans ce que les romantiques allemands appellent die Sehnsucht, c'est-à-dire l'espérance du lendemain ou la nostalgie du lendemain. C'est un peu un oxymore, mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout nostalgique d'un passé qu'on n'aimerait pas, et de toute façon qui révolue n'importe comment, mais dans l'attente de quelque chose de meilleur du lendemain. Et je trouve qu'avec ce genre de musique, on est plongé dans cette attente.
Vous y êtes sensible quand vous voyagez, notamment en Pologne. Vous y avez été dernièrement, Olivier Weber.
Oui, bah là, du coup, c'est la patrie de Chopin, et on voit toute cette architecture, aussi le passé quelquefois tragique du peuple polonais. Et puis, je suis rentré dans une église, alors je la connaissais, on m'avait indiqué son adresse, qui est une vieille église du centre historique de Varsovie, et c'est l'endroit où le cœur de Chopin était transporté bien longtemps après sa mort, donc il est inhumé, si je puis dire, non pas le corps, mais le cœur de Chopin. Et je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui défile devant le cœur du pianiste historique de la nation polonaise, mais qui est aussi celui de la nation française, quelque part.
Nous faisons ici donc le parallèle entre voyage musical et voyage de reportage, pour rendre compte de l'état du monde. Un voyage que vous avez beaucoup pratiqué, Olivier Weber, comme grand reporter, comme écrivain voyageur, en Ukraine, en Iran, en Afghanistan, au Tchad, en Irak, jusqu'au Cambodge, en Thaïlande, j'en oublie évidemment. Voyage dont vous avez tiré de très nombreux récits, des récits qui vous ont valu la reconnaissance de vos pairs, notamment par le prix Joseph Kessel ou encore le prix Albert Londres. Dernière parution en date, une compilation de reportages en Ukraine, en Afghanistan ou encore dans les territoires kurdes. Ça s'intitule « De l'esprit de résistance » au paru aux éditions de l'Aube. Nous allons donc voyager ensemble sur un tapis de musique pour évoquer des visages, des lieux, des drames, des joies qui se déroulent aux quatre coins du monde, à commencer par l'Afghanistan.
Thank you.
Un enregistrement effectué en Afghanistan au printemps 1994 dans la ville de Herat, au centre du pays, qui se trouve alors épargnée par la guerre civile. Et c'est dans une maison au calme, à l'écart des fracas, que se répondent chants d'oiseaux et lutte afghan, le rabab joué par un de ses éminents interprètes, Oustad Rahim, enregistré par une passionnée de musiques afghanes, Veronica Doubleday, que vous évoque à vos oreilles, à vous, Olivier Weber, cet enregistrement.
Oh ben c'est toute la beauté de la musique afghane et puis aussi de la musique soufie. Vous savez, le soufisme étant cette pratique d'un islam de tolérance, un islam d'ouverture à l'autre, presque œcuménique, j'allais dire, évidemment pourchassé par les talibans et autres théocrates dans la région. Et Herat, c'était un peu, si vous préférez, au temps du Moyen-Âge, enfin à l'époque du Moyen-Âge occidental, c'était la Florence, on va dire, de toute l'Asie centrale, et c'était une ville où il y avait énormément d'écoles de musique, d'écoles de danse, bien sûr ces mosquées, ces madrassas, ces écoles coraniques qui n'étaient pas radicales, magnifiques, et donc tout ça évidemment a été balayé par les talibans. Et c'est d'autant plus triste que ce pays de 40 millions d'habitants, où j'ai beaucoup d'amis, j'ai pu en faire sortir certains et certaines, mais malheureusement là tout est bloqué avec des visas. C'est un pays où il y a eu ces traditions de l'oralité, les traditions du chant, de la danse, du jeu, le cerf-volant. Tout est interdit par les talibans à nouveau, et je suis d'autant plus triste que là il y a eu un pays qui s'appelle les États-Unis qui ont remis d'abord par Trump, ensuite par Biden les clés d'un pays carrément et d'une capitale qui s'appelle Kaboul à un régime qu'on connaissait, le régime des talibans. Donc c'est absolument scandaleux, et les Afghans en souffrent beaucoup. Mais j'ose espérer aussi que, y compris par la musique, il y a toujours cette espérance. Et puis il y a la résistance civile des femmes. Il y a des femmes qui se battent, qui font tout pour qu'il y ait encore des cours, même des cours de chant. Alors ils le font discrètement. Mais il y a aussi des cours d'éducation civique, des cours de sciences naturelles, notamment haram, interdit. Pourquoi ? Parce qu'on représente l'image de l'homme et de la femme à leur image. Et donc, voilà, il y a cette lutte, cette résistance, d'où le livre d'ailleurs de l'esprit de résistance, qui est une somme non seulement de portraits, mais de réflexions, parce que je crois beaucoup en ça, en ce courage des femmes afghanes.
Avez-vous pu ainsi entrevoir parfois des bulles de bonheur, peut-être des instants de musique lors de ces années de guerre civile ?
Oui, absolument, parce que... Malheureusement, alors j'ai vu ça avec beaucoup de peuples en résistance ou de peuples qui subissent la guerre. Moi, c'est pas la guerre qui m'intéresse. J'ai franchi et j'ai connu beaucoup de guerres. J'ai couvert peut-être une vingtaine de conflits pour mes romans et mes reportages. Mais ce qui m'intéresse, c'est les peuples qui y vivent et rapporter leurs paroles, y compris par le roman d'ailleurs. Et voilà, quelquefois, ces hommes et ces femmes, ces enfants n'ont pas le choix. Mais il y a toujours, ou souvent, on va dire, un esprit justement de résistance ou d'espérance. Et je reviens à la musique de Chopin tout à l'heure, elle est aussi d'espérance. Et ça passe aussi par la musique soufie en Afghanistan, ça passe par la littérature. Donc voilà, c'est important de faire véhiculer les messages et c'est important de les écouter aussi.
D'autant plus aujourd'hui avec la résurgence des talibans et l'essor de l'État islamique. Je vous propose de voyager dans un autre pays, en Iran.
En fait, en Iran, c'est interdit, ils chantent pour les femmes. Les femmes, juste peuvent accompagner la voix des hommes. Quand j'étais enfant, je peux chanter. Mais après, quand j'ai grandi, c'était pas possible pour moi chanter dans le groupe, dans l'école, dans l'université, seulement. Et j'ai envie tout le temps pour chanter. C'était ma vie.
Yeah.
Les témoignages et le chant portés par Nazanine Savé en juillet 2023 à côté de Jordi Savall et l'ensemble Orpheus 21 à l'abbaye de Fontfroide, enregistré donc par l'émission Okora Couleur du Monde, notre consoeur Françoise Daugeorges, pour rendre hommage à la révolution féministe qui secoue l'Iran, portée donc par des femmes et des hommes qui défient le pouvoir religieux parfois au péril de leur vie. Je vous propose d'écouter la suite, une chanson qui a retenti justement sur les réseaux sociaux dès septembre 2022 et qui a valu à son créateur, Shervin Hajipour, à la fois une grande notoriété et quelques ennuis judiciaires.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای هاینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی،
Bahaye, une chanson de défi au pouvoir, de soutien à la révolution féministe en Iran, chantée ici par Shervin Hajipour, qui sera ensuite reprise par le groupe de pop Coldplay lors d'un concert à Buenos Aires. Olivier Weber, vous avez côtoyé cette jeunesse iranienne. Quel courage d'affronter ainsi les autorités pour avoir le simple droit de sortir sans porter le voile ou tout simplement avoir l'audace de chanter.
Oui, c'est très émouvant parce qu'en plus c'est une chanson qui est dédiée à notre amie Mahsa Amini. D'ailleurs, c'est le pochoir que vous voyez sur la couverture du livre, c'est Mahsa Amini. C'est un pochoir qu'on a vu partout sur rue de Téhéran parce que les jeunes et les moins jeunes sont sortis dans la rue. C'était une révolution plus que sociale, parce que même les enfants des policiers, même les enfants des militaires étaient dans la rue. Et Shervin Hajipour, il a pris des risques incroyables parce que il avait 25 ans à ce moment-là, il a 26 maintenant. On l'a mis en prison. Il est ressorti parce qu'évidemment il était très populaire et puis on évitait un peu une nouvelle révolution dans la révolution. Mais c'est assez subtil parce que Bahraye en persan, c'est-à-dire pour et contre. Alors évidemment, quand il dit contre le régime, c'est Bahraye dans le sens de contre, pour les femmes, pour la liberté, Bahraye Azadi, etc. Et c'est magnifique, c'est très triste. En même temps, voilà, c'est toute la force de cette jeunesse qui est cadenassée. Il y a un vrai divorce d'ailleurs, pas qu'avec la jeunesse, entre la population de cette nation de 80 millions d'habitants, avec une civilisation de 2500 ans depuis Persépolis, et puis un régime théocratique qui a confisqué le pouvoir d'une manière très radicale, et d'ailleurs qui est un pouvoir divisé, qui est d'ailleurs quelquefois irrationnel, on l'a vu avec les derniers événements. Et donc voilà, il y a cette jeunesse qui dit non, qui refuse de porter le voile, qui a pris des risques. Il y a encore une jeune fille qui a été tabassée dans un métro, qui est morte à Téhéran, vous avez peut-être vu les images, donc il y a encore quelques mois. Et voilà, en même temps, c'est un régime qui est solide. Pourquoi ? Parce que contrairement aux années précédentes, maintenant il y a la reconnaissance faciale, maintenant il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on espionne et on n'arrête pas tout de suite, mais on arrête après. Et puis deuxièmement, pour finir, c'était très rare pour ces jeunes filles, il y a eu toute une série d'empoisonnements dans le restaurant universitaire et dans les cantines de lycée. Et c'est pour dire aux familles, ne sortez pas, ne laissez pas vos filles sortir, surtout qu'elles gardent le voile, parce que nous, on les a à l'œil. C'est voilà, ce régime inique des Pasdaran, des gardiens de la révolution. Mais heureusement, il y a des gens comme Shervin Hajipour, il y a des gens comme Mahsa Amini qui se révoltent encore. Et il faut leur donner raison, il faut porter encore leurs paroles.
Et ce qui est émouvant aussi pour nous, qui sommes sensibles à la musique, pour nous tous, c'est que cette révolution, elle passe aussi par le chant, que ce chant soit porteur ainsi oui. D'un message aussi fort.
Oui, absolument, c'est très beau. Alors ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux en Iran, c'est que voilà, ça circule beaucoup et on le chante dans la rue, on le chante entre soi, entre amis, etc. Enfin, ce chant-là, mais aussi beaucoup d'autres qui sont des sortes d'hymnes maintenant révolutionnaires. C'est Bella Ciao, hein, des Iraniens. Et d'ailleurs, il y a même un Bella Ciao en version persane. Et oui, donc ça passe par la musique, ça passe par les arts. Et voilà, ce peuple qui est cadenassé, mais qui est un peuple artistique quelque part, qui a une vraie connaissance culturelle en profondeur, qui est très ouverte aussi sur la francophonie et les cultures étrangères, eh bien, cette nation de jeunesse et de moins jeune résiste aussi par le chant et la musique.
Alors, j'aimerais maintenant qu'on porte nos regards et nos oreilles vers un autre endroit du monde que vous avez beaucoup parcouru, Olivier Weber, et où la liberté est aussi un combat, c'est en Ukraine. Une romance sans paroles traditionnelle d'Ukraine, chantée par des chœurs d'enfants d'Odessa, enregistrée donc à Odessa en octobre 1992. Des enfants devenus adultes et peut-être sur le front aujourd'hui. Odessa que vous avez pu visiter, Olivier Weber, depuis le début de l'offensive russe.
Oui, j'y étais encore il y a quelques semaines avec l'écrivain Emmanuel Carrère. On était 5 auteurs européens invités par des amis ukrainiens pour parler de poésie. Ça peut paraître bizarre. Et même sous les bombes, on a déclamé des poésies. Donc à Kharkiv, à Kiev et ailleurs. Et moi, je suis descendu à Odessa. Donc j'ai revu Odessa, que j'avais déjà vu au début de la guerre pour ce livre, qui s'appelle « Naissance d'une nation européenne », qui est plutôt une somme de portraits, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est plutôt la défense par ces jeunes et ces moins jeunes des valeurs européennes, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de démocratie, du choix politique et voire liberté sexuelle. Et oui, voilà, d'ailleurs, lors du premier séjour, alors qu'on pensait que... Enfin, il y avait un risque quand même qu'Odessa soit attaquée par les Russes. Il y a eu des débarquements amphibies, d'ailleurs, à ce moment-là. Eh bien, je suis allé voir le directeur de l'opéra qui continue à faire des répétitions malgré les bombes. Alors, il y avait des sacs de sable partout, évidemment. On n'est pas loin, vous savez, de l'escalier Potemkin qu'on voit dans le film Potemkin de Eisenstein. Et il y a une résistance incroyable. Par contre, pour le dernier voyage, il y a quelques semaines, j'étais quand même frappé. Et c'est visuel, mais en même temps, c'est traversé par les statistiques. Le nombre de jeunes blessés, amputés en particulier. Les jeunes, ils ont 20, 21, 22, 23 ans. Il y a l'Institut de sociologie de Kiev qui dit qu'il y a 78% des familles de toute l'Ukraine qui ont soit un membre de la famille blessé ou tué, soit un très proche, donc du genre le meilleur ami de la famille, et non pas le 15e cousin qui est atteint dans sa chair ou tué par les bombardements ou l'agression de la Russie. Donc voilà, Odessa est une ville qui reste quand même cosmopolite, une ville monde, une ville ouverte sur la mer Noire, mais qui est un mélange de Pétersbourg, de Marseille, de Beyrouth, de Constantinople, j'allais dire d'Istanbul. Et donc voilà, il y a toujours cette ville culturelle. Une dernière image. Le port est systématiquement bombardé par les Russes. Je peux vous montrer encore sur mon portable. Vous savez, les fameux Shahel, les drones iraniens que les Russes ont acquis. Ça survole, on appelle ça les tondeuses à gazon, parce que les entend venir, c'est en pleine nuit. Le port régulièrement bombardé. Et à la sortie du port, sur la plage, À quelques centaines de mètres, vous avez un jeune qui joue sur un piano droit. Il le couvre d'une couverture la nuit pour pas qu'il y ait trop d'humidité, face à la mer. C'est bourré de monde. Il joue gratuitement. Il y a 300, 400 personnes. Il dit, c'est ma manière de dire non aux Russes. C'est ma manière de résister par le piano. Alors, c'est de la musique traditionnelle ou du jazz, ça dépend. Mais voilà, c'est ça aussi l'âme d'Odessa. Et j'ose espérer que la culture de cette ville-monde continue à porter sa voix.
Odessa, où Émile Gilels était né en 1916.
Thank you.
En 1976, Émile Guélels avec l'Orchestre symphonique d'État de Russie, dirigé par Kurt Mazur dans le 4e concerto de Ludwig van Beethoven. Cet enregistrement qui dit peut-être à lui tout seul la force d'attraction à cette époque du géant soviétique, la nécessité de passer par Moscou pour faire carrière. Ce concerto résonne non seulement comme un témoignage de l'histoire avec un grand H, mais aussi avec votre histoire personnelle, Olivier Weber. Où et quand avez-vous découvert ces concertos de Beethoven?
J'ai découvert en famille très jeune, enfant, donc je trouve ça aussi très mélancolique pour le rattacher à ce qu'on disait tout à l'heure sur Chopin, c'est le romantisme allemand. C'est aussi tout le génie de Beethoven. On a écouté là ce dialogue entre le piano et puis l'orchestre, surtout les cordes, les violons, et la répétition sous forme différente des thèmes musicaux avec le crescendo, ça me transporte. Alors j'évite d'écouter la musique d'ailleurs quand j'écris, parce que je suis tellement emporté que je ne suis plus dans la musique, on va dire, de l'écriture. Donc voilà. Mais très longtemps, c'est un peu mon problème avec la musique, c'est que je garde, même la nuit, je garde, comme je dors peu, je me réveille et j'ai la musique qui revient. Donc quelquefois c'est obsédant, mais c'est le pouvoir de la musique qui vous transporte, qui vous emporte, qui vous rassure quelquefois, qui vous inspire aussi, mais pas trop, mais non trop, parce que sinon on ne peut plus écrire.
Voilà. Est-ce que vous êtes attentif à la musique qui vous environne lors de vos reportages? Est-ce que la musique vous tient compagnie?
Oui, j'emporte très peu de musique personnelle, parce que sinon je risque d'être dans une bulle. Je préfère communiquer, donc écouter la musique, les musiciens, rencontrer des artistes, effectivement. On parlait de l'Afghanistan et de l'Iran tout à l'heure, mais ça peut être le cas de la Turquie, ça peut être le cas de l'Asie centrale, l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Je crois beaucoup à l'émanation consciente et inconsciente de la musique comme support d'un peuple, d'une culture, d'une tribu. Il y a une expression directe et puis une expression indirecte aussi. Donc par la musique, par le chant, on fait passer beaucoup de choses. D'abord, il y a des choses qui sortent. On rappelle un seul exemple. Dans une township, moi je suis passé par les orphelinats, je suis passé par les orphelinats d'Alsace très jeune, pour des questions diverses et variées. C'est là où j'ai appris la musique et la littérature allemande en particulier. Mais j'étais avec un orphelin de 28 ans dans une township, c'est un bidonville, le fameux bidonville de Soweto, à côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Et lui, avec la musique, réduit, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, redonne confiance à des orphelins, des enfants des rues. Donc il les prend le soir, il leur fait, grâce à un petit peu d'argent collecté à droite à gauche, des sortes de cours particuliers avec la danse. On l'a mis dans un documentaire que j'ai tourné là-bas d'ailleurs. Voilà, pour moi, qui essaie de transmettre, je trouve ça extraordinaire, parce que ça me permet aussi d'être en adéquation. On passe le relais, on a reçu. Je pense que beaucoup d'éditeurs le comprendront, et il faut donner ou redonner. Et Toulani, c'était le nom de ce danseur de 28 ans. C'est quelqu'un de formidable, par la musique sud-africaine, la musique zoulou, mais aussi une musique presque classique occidentale. Il redonne espoir à des jeunes. Et pour finir, sur l'Afghanistan, j'ai en tête ces jeunes femmes issues quelquefois de minorités ethniques qui ont 20 ans et quelques en Afghanistan, qui avaient créé l'orchestre Zora avec un chef d'orchestre. Ils sont tous exilés, heureusement pour elles et pour lui. Mais ces filles n'avaient pas le droit de s'exprimer, n'avaient pas le droit de jouer du violon, ni du violoncelle, ni la contrebasse. Et tout d'un coup, il y avait ce chef d'orchestre qui bénévolement avait créé cet orchestre uniquement pour femmes, pour filles. Elles étaient très jeunes. Elles se sont produites à Davos, en France, etc. Et il faut les inviter ici d'ailleurs. Et c'est formidable, malgré l'exil, elles continuent. Et c'est aussi de la musique traditionnelle afghane, mais aussi de la musique classique occidentale, et c'est magnifique.
Thank you.
La valse triste de Sibelius par le West Divan Orchestra, ce fameux orchestre fondé par Daniel Barenboim et Edouard Saïd en 1999. Et c'est un enregistrement de 2005. C'est un orchestre d'utopie où musiciens israéliens et musiciens palestiniens jouent ensemble, entremêlent leur art. Et évidemment, on peut s'interroger depuis le 7 octobre et tout le drame qui a suivi, la pérennité de ce type d'utopie, parce qu'il n'y a plus vraiment de raison d'espérer, même musicalement, Olivier Weber. Est-ce que vous avez encore de l'espoir ?
Oui, c'est compliqué, évidemment, avec la sidération des attentats du 7 octobre. Mais j'ose espérer qu'il y a encore tous ces groupes, donc je pense à Shalom Artsav, qui veut dire la paix maintenant en particulier, et des gens qui croient en une solution à long terme pour l'État d'Israël, ce qui n'est pas le cas de Netanyahou, hein, qui ne vise que sa survie politique et judiciaire, parce que sinon il va finir en prison, comme l'a été Ehud Olmert, ancien Premier ministre, et puis Moshe Katsav, qui est l'ancien président de la République de l'État d'Israël. Il n'y a pas de question sur le fonctionnement à long terme d'Israël. Et je pense que si les pères fondateurs de l'État d'Israël, avec l'indépendance du 17 mai 1948, si j'ai bonne mémoire, Ben Gurion, par exemple, revenait en vie, il serait malade de voir comment un gouvernement israélien, celui de Netanyahou, a pris des suprémacistes et des racistes dans son gouvernement. Donc voilà, je comprends évidemment qu'après le 7 octobre, toute la gauche israélienne, tout Shalom Artsav, les ONG, Breaking the Silence, sont évidemment dans l'incapacité de proposer un plan de paix, mais il va falloir réfléchir. Pour finir sur Daniel Barenboim, il fait partie, je peux me tromper, mais des trois Israéliens juifs, parce qu'il y a des Israéliens qui sont arabes, donc musulmans ou chrétiens, fait partie des trois Israéliens juifs qui avaient un passeport palestinien. Un des trois est mort, l'autre habite à Paris. Et Daniel Barenboim, qui a d'autres passeports, il est aussi de nationalité argentine et espagnole, il n'a jamais renoncé, à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, à la nationalité palestinienne. C'était un homme de paix. Il chantait d'ailleurs, il organisait donc des concerts pour la paix entre Israël et les territoires palestiniens.
Vous avez cité les trois nationalités, la nationalité israélienne.
Et bien sûr, Israël, bien sûr, tout à fait.
Mais suite à ce 7 octobre, il y avait un reportage justement mené par nos équipes à France Musique qui s'interrogeait sur la pérennité de cet orchestre, et notamment les musiciens palestiniens qui s'étaient mis en retrait de l'orchestre parce que on est dans la sidération.
Dans la sidération et l'incapacité.
Et l'incapité
aussi,
de se retrouver, même musicalement.
Tout à fait, dans la musique, dans le théâtre. Je pense à Akko. Vous savez, Akko, c'est dans l'ancienne Saint-Jean d'Acre, l'ancienne capitale du royaume saint chrétien, donc de Jérusalem, quand Jérusalem était tombée, aux mains de Saladin en particulier. Et à Akko aujourd'hui, enfin, Akko, il y a encore quelques mois, il y avait une compagnie de théâtre et un festival de théâtre chaque année. Donc, c'est au nord de Raïfa, la troisième ville d'Israël, au bout de la baie de Saint-Jean d'Acre. Et donc, ce festival, évidemment, est fini. Alors ça datait d'avant le 7 octobre. Mais il y avait donc des points de connexion entre artistes, musiciens, comédiens, voire cinéastes aussi israéliens. On a quelques exemples en tête. Mais voilà, j'ose espérer qu'il y aura encore un espoir de paix. Et surtout, il en va même de l'existence de l'État d'Israël sur le long terme. Netanyahou est incapable de réfléchir sur le long terme ou le moyen terme d'Israël. Il ne joue que pour ses propres intérêts politiques et judiciaires.
Avec ce que nous venons d'évoquer ensemble, Olivier Weber, c'est le trio Joubran, ambassadeur de la culture palestinienne, de la tradition du oud dans cette région du monde. Il est question finalement de survie des cultures et donc aussi de la musique lorsqu'on observe les conflits à Gaza ou en Ukraine. C'est bien de ça dont il s'agit.
Oui, absolument, parce que par certains conflits, il y a bien sûr des volontés de briser la culture. Vous parliez de l'Ukraine, c'est vrai que j'étais surpris de voir surtout les plus jeunes qui n'avaient même pas l'âge d'aller à l'école ou presque pendant la révolution de Maïdan 2013-2014. Vous savez, quand l'Ukraine, les Ukrainiens et le peuple ukrainien de Kiev a chassé le pouvoir pro-russe, eh bien, ce sont ces jeunes aujourd'hui qui ont 20, 25, 28 ans en Ukraine qui disent, mais si jamais on ne résiste pas, c'en est fini la culture. La musique, la littérature, la philosophie, l'histoire, notre langue même, notre identité, on est face au mur, il faut résister par tous les moyens. Donc ça passe aussi par la culture, ça passe aussi par tout simplement l'histoire des différents arts. Et donc conserver cette ou ces cultures, ça passe par la résistance, ça passe par l'engagement, mais il en va aussi de l'avenir, parce que ces jeunes et ces moins jeunes justement combattent aussi pour un avenir meilleur et qui passe donc aussi par la littérature, la philosophie et la musique.
Thank you.
Il nous faut terminer cette émission, Olivier Weber, avec le grand réconciliateur du classique et du jazz, le pianiste Keith Jarrett, ici en concert à Cologne le 24 janvier 1975. Qui est Keith Jarrett pour vous ?
C'est un pianiste de génie, mais il n'est pas que pianiste d'ailleurs, il joue de plusieurs instruments. Et là, c'est un concert qui est historique, qui a plus de 50 ans, donc, ou 50 ans à peu près, effectivement un demi-siècle. Il vit encore, il était jeune, c'est un concert, je crois, totalement improvisé, en tout cas en large partie improvisé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes l'écoutent encore, les jeunes de 25 ou 30 ans, j'ai eu la preuve encore récemment. Et puis là, c'est aussi la preuve, deuxièmement, qu'une œuvre musicale de génie, Elle peut accrocher par des thèmes qui nous sont chers, qui résonnent à certains moments, comme pour un livre, certaines pages qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins. Puis après, il y a la structure globale, la structure holistique. Et ce concert à Cologne, quand vous l'écoutez le soir comme ça, avec le tour de disque ou sur des sonos numériques, on a une ambiance incroyable. Il y a plein de résonances. Donc oui, la confluence du classique et du jazz. Et puis ouvert sur d'autres influences. Et voilà, on a quelque chose de structuré, de global, en même temps qui part un peu dans tous les sens, j'allais dire, parce que tout d'un coup, il y a eu ce coup de génie, sûrement galvanisé par le public, c'était l'instant T, c'est le bon moment, le bon enregistrement. Et ça veut dire qu'avec une bonne base, on peut improviser et faire vibrer encore le public un demi-siècle après.
Merci beaucoup Olivier Weber.
Merci à vous.
D'être venu dans le studio de Musique et Moi ce matin. De l'esprit de résistance, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui rend compte des événements dans les territoires kurdes, en Afghanistan et aussi en Ukraine. Ça a paru aux éditions de l'Aube. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et Moi ce matin. Benjamin Vignal à la technique, Philippe Petit à la réalisation, attaché de production Maud Nourry. Passez un très bon dimanche sur France Musique et la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.